L'Église de la Victoire du Québec vous présente un message de victoire enseigné par un de nos orateurs invités. Nous prions que vous recevrez la révélation qui vous permettra de découvrir la vie abondante prévue par Dieu pour ses enfants.
Seigneur, on veut premièrement te remercier pour la présence de Martine dans cette assemblée. On reconnaît ses dons, Seigneur, et on reçoit ses dons parmi nous. On prie, Seigneur, ce matin que le vent de ton esprit vienne sur elle. Merci de l'animer, de l'inspirer ce matin et de nous édifier par la parole que tu as déposée sous son cœur. On a prié au nom de Jésus. Amen. Que Dieu te bénisse, Martine.
Merci. Je vais sortir mes notes. Je suis en train d'oublier que je voulais faire ma petite introduction de la façon suivante. Je recommence.
Bonjour. Je voudrais vous parler.
Bon, une autre façon. Bonjour. Ce matin, je m'adresse à vous. Allô? Ce matin, je vais vous parler. Bon, pourquoi je fais toutes ces pitreries-là? C'est pour déjà aborder mon sujet. Le titre, d'ailleurs, faudrait que je mette le titre de mon message. Voilà, les langages artistiques. Vous avez vu dans ces trois petites scénettes, si on peut dire, que j'ai faites, vous avez réagi de façon différente. Vous avez interprété des choses différentes, pas vrai? Bon. Principalement à cause de quoi? Mon attitude, donc mon langage non-verbal. Voilà, c'est juste une petite amorce pour mon message. Les langages artistiques, c'est le thème de mon message. On va d'abord voir quelques définitions. Je vais enlever ça. À quoi on pense quand on dit les mots langage artistique? Le petit Robert nous dit du mot langage, système d'expression et de communication. Façon de s'exprimer, paroles, gestes, symboles. Et du mot « art », premièrement, ça peut être un ensemble de moyens, de procédés conscients qui tendent à une fin. Donc, on parle d'adresse, d'habileté, de savoir-faire. Ça peut aussi être, la deuxième définition, représentation du beau. Chacun des modes d'expression de la beauté. Donc, langage artistique voudrait dire exprimer ou communiquer quelque chose par des modes d'expression de la beauté. Ça devrait ressembler à ça. Mais pourquoi vouloir utiliser un tel langage? Ne pourrait-il y avoir que la parole? Bon, on va essayer de s'imaginer. Prenons par exemple ce qui nous entoure. Pourrait-on imaginer une terre sans beauté? Je veux dire, sans la nature, les paysages, les changements de saison, les couleurs, le chant des oiseaux, le bruit des vagues, les couchers de soleil, le vent dans les cheveux, la liste est infinie. Personne n'oserait affirmer être complètement insensible à cette beauté qui l'entoure. Vous êtes d'accord avec moi? Si quelqu'un disait « moi, ça me dérange pas pantoute », je dirais « je te crois pas ». C'est impossible. Non, la nature, la création dans laquelle nous vivons, nous émerveille, nous fascine, nous amène souvent dans un état admiratif, le cœur ouvert à ce qu'elle semble vouloir communiquer. Douceur, force, perfection, diversité, grandeur, majestuosité, science qui nous dépasse. Vous voyez où je veux en venir? La nature nous communique un peu de qui est Dieu. Nous, chrétiens, on sait que c'est Dieu qui se révèle dans sa création. C'est ce qu'on voit dans Romains 1:20, que je vais aller lire. Romains 1:20. En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient fort bien depuis la création du monde, quand on les considère dans ses ouvrages. Donc, Dieu se révèle dans la nature, dans sa création. Sa grandeur est révélée. Et ceux qui disent qu'il n'y a pas de Dieu, ben, ils ne sont pas, ils se mentent à eux-mêmes finalement. Deuxièmement, le Dieu créateur et ses langages. Donc, on vient de voir un premier langage que Dieu se révèle par sa création. C'est un premier langage. C'est le Dieu artistique qu'on apprend à connaître. L'artiste par excellence, le Dieu créateur. Au commencement, Dieu créa. Et il vit que cela était bon. Moi, j'ai vraiment l'image ici de l'artiste qui crée, qui regarde son œuvre et puis qui dit « Ouais, c'est ça que je voulais faire. » Dieu se révèle aussi par sa parole. J'allais trop vite. Dieu se révèle aussi par sa parole. Dans Jean 1, versets 1 à 4, on voit aussi, au commencement, Jean 1, 1 à 4, « Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. » Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. Un peu plus loin, Jean 1, verset 14. Et la parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Il y a beaucoup de choses dans ce verset-là. Dieu se révèle à nous de façon encore plus intime, plus précise, par sa parole. Ce n'est pas juste la nature, mais c'est par sa parole aussi qu'il se révèle à nous. Qui dit parole dit aussi communication. Il me fait connaître le Dieu créateur qui me parle et avec qui je peux communiquer. Parole égale Christ. Parole égale Bible aussi, parole de Dieu. Parole égale vérité. Dans Jean 17, 17, Christ Jésus prie et il prie « Sanctifie-les par la vérité. Ta parole est la vérité. » Jésus a dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie. » Encore plus, il s'est fait semblable à nous. Sa parole a été faite chair en Jésus-Christ. Donc, ce n'est pas juste une parole qu'on pourrait entendre du ciel. C'est une parole qui est concrète, qui s'est faite chair, qui s'est faite semblable à nous, donc encore plus intime. Et dans Jean 1, 14 que j'ai lu tout à l'heure, il est écrit « Nous avons contemplé sa gloire ». Donc pas seulement la gloire de la création de Dieu, mais la gloire de Christ que nous avons contemplé. La gloire du Fils unique venu du Père. Dieu se révèle aussi par le corps de Christ. Pas juste par le fait que Christ est la parole de Dieu. Mais c'est avec un corps physique réel que Dieu a révélé son amour pour nous. Le sacrifice de Jésus à la croix, mort pour nos péchés. Jésus n'est pas juste venu livrer le message, puis il est reparti. Non, ça n'aura pas eu le même effet. Il a subi physiquement la plus grande souffrance que l'on puisse imaginer. Il a offert son corps. Et c'est par ce sacrifice que Dieu nous offre le pardon et le salut. Pas seulement de notre âme, mais de notre être tout entier, de toute notre vie. Finalement, Dieu se révèle par son esprit. J'ai quelques versets ici dans Jean 1, versets 12 et 13. On est toujours dans Jean 1, évidemment. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, donc qui ont reçu la parole, Christ, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Dans Jean 3, verset 6, on voit « Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. » Dans Jean 14, 18, verset 18, Christ a dit « Je ne vous laisse pas orphelins. » Et un peu plus tard, on voit, il précise, « dans Jean 14, 26. Mais le Consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Donc Dieu aujourd'hui continue de se révéler à nous, continue de communiquer avec nous par son Esprit. Vous me suivez? Super. En résumé, il s'est révélé par la création qui révèle sa beauté, sa grandeur. Deuxièmement, par la parole qui révèle la vérité, qui révèle Christ. Troisièmement, par le corps sacrifié qui nous parle de pardon, de salut et d'amour, l'amour de Dieu pour nous. Et quatrièmement, par l'Esprit. L'Esprit qui nous parle de révélation, d'instruction, de prophétie, de direction spéciale, d'intelligence renouvelée, toutes ces choses-là. Là, vous allez me dire, ouais, c'est une longue introduction, puis, mais le lien avec les arts, il est où? Bien, j'y arrive. L'homme à l'image de Dieu. Dieu a créé l'homme à son image. Tout être humain a donc un potentiel de créativité qu'il utilisera dans tel ou tel domaine et qu'il cherchera ou non à développer. Qu'on soit chrétien ou non, qu'on connaisse Dieu ou pas, on a tous un potentiel de créativité. Mais le chrétien, l'enfant de Dieu, est appelé à révéler Dieu, à le faire connaître, à communiquer qui est Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit. Et c'est là que je veux ramener mes quatre points tout à l'heure. Donc l'enfant de Dieu, qui est né de nouveau, dont l'Esprit Saint habite en lui, est appelé à révéler le cœur de Dieu, à faire connaître Dieu par sa propre créativité, parce qu'il est fait à l'image de Dieu. Il est appelé aussi à révéler Dieu en proclamant la parole, en proclamant la vérité, en offrant son corps aussi comme un sacrifice vivant pour témoigner de l'amour, du pardon et du salut de Dieu, et en étant conduit par l'Esprit, comme nous dit Galates 5, 18. Il y a un critère qui s'ajoute à ça, ou qui complète ceci, dans Exode 28, 3, qu'on va aller lire. Alors là, dans Exode 28, 3, c'est Dieu qui parle à Moïse et qui lui dit, « Tu parleras à tous ceux qui sont habiles, que j'ai remplis d'un esprit de sagesse. Ils feront les vêtements d'Aaron, afin qu'ils soient consacrés et qu'ils exercent pour moi le sacerdoce. » Le mot « habile » ici, quand il dit « tu parleras à tous ceux qui sont habiles », les mots qui sont utilisés, c'est « sage de cœur ». Donc l'habileté, ce n'est pas simplement une habileté manuelle, oui, c'en est une, mais c'est aussi une sagesse de cœur qui accompagne ça. Donc c'est un critère qui est important. Toute expression artistique doit découler de ça. Les langages artistiques doivent être imbibé de notre vie avec Dieu. L'art, l'expression artistique, révèle une facette de Dieu ou révèle ce que Dieu veut révéler. Parce que parfois, il y a des œuvres ou des... Quand je dis œuvres, ce n'est pas simplement comme des tableaux ou des choses, mais ça peut être des danses, des musiques, toutes sortes d'expressions artistiques. Parfois, Dieu se sert de ça pour communiquer un message bien particulier, soit à une personne, soit à un groupe de personnes, une ville, une nation. Autre chose aussi, c'est que l'art met en lumière, l'art va souligner, l'art va mettre l'emphase sur quelque chose de précis. Je prends un exemple, Moïse et le serpent d'airain. Moïse aurait pu, le Seigneur aurait pu dire à Moïse, prends un serpent par terre qui est mort, là, puis lève-le comme ça. Non. Le Seigneur a dit « fabrique un serpent d'airain ». Donc, c'était une œuvre artistique. On sait tous que, justement, le serpent d'airain élevé est la représentation de Christ en croix qui a été élevé aussi. Mais à côté de ça aussi, on peut aussi interpréter que ce serpent d'airain-là, qui était une œuvre d'art en fait, qu'est-ce qui s'est passé pour ceux qui regardaient, qui levaient et qui osaient regarder l'œuvre d'art? Et ceux qui ne regardaient pas, bien, ceux qui regardaient étaient convaincus de péché. Et ils étaient sauvés. ceux qui ne regardaient pas mouraient. Donc, l'œuvre artistique, dans ce contexte-là, avec cet exemple-là, nous montre vraiment que ça peut avoir un impact très fort chez la personne qui le reçoit ou qui le regarde. Parce que l'art, c'est ça, ça ne passe pas nécessairement par l'intellect tout le temps. Ça peut, mais souvent, sans qu'on puisse expliquer ou comprendre, ça va toucher notre cœur, ça va toucher notre âme. Et c'est là que ça prend toute sa valeur. Mais, j'ai marqué l'expression artistique détériorée. Le Seigneur nous demande, en fait, le premier commandement, comme on le sait tous, c'est « Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée et de toute ta force. » Cela semble vouloir dire de tout notre être, quoi que nous fassions, n'est-ce pas? Mais que s'est-il passé pour que l'art n'ait pas toujours rempli son mandat dans ce sens-là? C'est-à-dire vraiment refléter Dieu, parler du Seigneur, le révéler aux autres. Pourquoi est-ce qu'au fil des siècles, puis encore même aujourd'hui, dans certains milieux, on a mis de côté l'art et oublon, ou bien que ça a tenu une place plus ou moins grande dans l'Église? Première cause, vous le savez, c'est la chute. Dès que le péché est entré dans le monde, ça a affecté toutes les sphères de notre vie, tous les domaines de notre vie, dont la créativité aussi et l'expression artistique. Mais il y a une autre chose qui a causé bien des dommages, puis je pense que c'est important que j'en glisse un petit mot. Je vais vous lire un extrait qui est tiré en partie d'un livre qui parle justement de l'art dans l'Église. L'autre élément qui a changé beaucoup de choses dans l'Église, c'est la pensée grecque. Bon, j'explique. À la naissance du christianisme, Rome était le maître incontesté du monde connu. Donc, dans le domaine économique, dans le domaine militaire, dans le domaine technique, c'était vraiment Rome. Dans le domaine commercial aussi. Tout était contrôlé, ou c'est vraiment Rome et les Romains qui avaient le monopole. Mais sur le plan intellectuel, philosophique ou même culturel, c'était les Grecs qui dominaient. La pensée grecque ou la philosophie grecque était qu'elle estimait par-dessus tout, le spirituel, le rationnel. Tout ce qui était abstrait, c'était déjà supérieur à tout ce qui pouvait être terrestre, corporel ou matériel. Tout ce qui est perçu par les sens était comme méprisé, sans valeur. Dans le monde antique, les métiers manuels étaient considérés comme inférieurs, puis étaient généralement confiés aux esclaves. Platon, d'où le platonicisme, dit que les émotions, les passions, les sentiments qui donnent naissance aux divers moyens d'expression artistique sont charnels et terrestres et inférieurs aux choses spirituelles. Cette attitude de mépris à l'égard des choses matérielles n'a pas sa source dans la parole de Dieu. En se coupant du corps, du matériel, du quotidien, on peut être en union parfaite avec Dieu. C'était ça sa pensée. Les chrétiens des premiers siècles ont combattu certaines idées, mais étaient intimidés ou imbibés par cette culture dominante, où le matériel, qui était associé au mal, s'opposait au spirituel, qui était le bien. Alors que pour Dieu, pour le peuple hébreu, tout ça fait un. On est corps, âme, esprit. On ne peut pas diviser les choses. J'espère que je ne vous perds pas trop dans mes... Augustin, vous connaissez Saint Augustin, vous en avez entendu parler. Lui, il aimait vraiment Dieu, mais il menait un réel combat au sujet des émotions, des arts et tout ça. Il croyait que tout ce qui provenait de cette terre, en termes de talent ou de moyens d'expression, n'était pas digne d'être valorisé. C'était même suspect. Tout plaisir des sens est suspect. Alors qu'on sait qui nous a donné, qui nous a créé, c'est Dieu. Donc, on voit vraiment comment la pensée grecque a brisé, a comme voulu nous diviser en tant qu'être humain, alors qu'on fait un tout, puis que tout ça va ensemble. Un exemple aussi plus récent, je vous parle d'Edmund Gosse, qui était un Allemand, je crois, oui. Vers les années 1900. Ses parents, pour des raisons trop longues à expliquer, étaient des fervents croyants. Ils lisaient la Bible, ils méditaient la parole tous les jours. Mais pour eux, il était interdit d'avoir aucun autre livre, musique, quoi que ce soit qui représentait la créativité, quoi que ce soit d'autre que la parole de Dieu avait le droit de rentrer dans la maison. Ben, le petit garçon, Edmund, il a grandi là-dedans. Plus tard, bon, je vous lis un petit peu l'extrait encore. Les parents d'Edmund considéraient qu'il était mal de trouver un plaisir dans la littérature, la science ou n'importe quelle autre activité que la lecture et la méditation de la parole de Dieu. Toute forme de fiction, conte pour enfants, séculier ou même chrétien, était un mensonge et constituait un péché. L'enfance d'Edmund fut privée de l'imaginaire. C'est là qu'est le point le plus important. Du sens de l'émerveillement. On a parlé tout à l'heure comment que la création nous émerveille. Mais si on enlève l'émerveillement de notre vie devient très sèche, terne et morne et tout ça. Vous allez voir qu'est-ce que ça a fait. Ce qui eut pour conséquence tragique qu'il renia la foi de ses parents. Il se ferma à l'Évangile et devint critique littéraire. Et c'est paradoxal parce qu'il est devenu écrivain. Donc, c'était plus fort que lui. Il a développé sa créativité, sauf qu'il a perdu la foi. Il dit de la religion évangélique, dans son autobiographie, qu'elle encourage un esprit sévère et ignorant, la condamnation. Elle invente des vertus qui sont stériles et cruelles. Tout ça parce que cet enfant-là a été privé d'imaginaire, de créativité, de beauté. Je trouve ça dommage, oui. Qui dit langage dit communication. OK. Dans mon grand titre, les langages artistiques, qu'est-ce que ça voulait dire pour vous? Est-ce que je voulais parler de différentes formes d'expression artistique comme la danse, la poterie, la peinture, la musique? Est-ce que c'était un peu ça auquel vous pensiez? Oui? OK. Oui, en partie. C'est en partie ça que je voulais dire. Mais il y a une autre façon d'aborder le terme langage artistique. Puis c'est ça dont je veux vous parler le plus. Langage, dans le sens « je comprends » ou « je comprends pas ». Parce que, un exemple, là, je vous parle en français. Tout le monde me comprend normalement. Si je vous parlais en chinois, par exemple, levez la main, qui me comprendrait? Oh, Jean, tu parles le chinois, super. Bon, il n'y aurait pas beaucoup de monde qui me comprendrait. Si je parlais anglais, déjà, il y en a pas mal qui me comprendraient en levant la main. D'autres qui comprendraient un petit peu. Hein? Bien. Donc, pourtant, j'utiliserais la même forme d'expression, c'est-à-dire un langage avec des mots organisés logiquement, hein? Structurés. Mais selon la langue que je choisirais, ou selon mon moyen d'expression, vous comprendriez ou vous ne comprendriez pas ce que je veux dire. Puis encore, imaginez-vous, quand je parle en langue, même moi, je ne me comprends pas. Alors, dans le même ordre d'idée, le langage artistique peut avoir un impact différent d'une personne à l'autre. Prenons par exemple la peinture. Une toile figurative ou une toile abstraite n'aura pas le même effet chez l'un ou l'autre des individus. Une toile figurative qui représente des choses concrètes va avoir pour réaction, par exemple, des « Waouh, c'est magnifique !» ou bien « Ça me parle, ça me touche !» ou bien « Bof, c'est ordinaire !» Une toile abstraite. Alors là, la toile abstraite, ça peut être n'importe quoi. Alors les réactions pourront être aussi encore « Waouh, c'est magnifique !» ou bien « Ça me parle, ça me touche !» ou bien « Que c'est ça ?» Vous avez déjà vécu ça? Bon. La même œuvre peut être comprise ou perçue de façon différente. Pourquoi tant de différences de perception et d'interprétation? Je sais que vous connaissez la réponse. C'est que chaque personne est unique. Chaque personne a un passé, un arrière-plan qui lui est propre. On a même une couleur préférée, c'est dire. On ne peut pas tout expliquer, mais chaque individu est différent. Dieu nous parle de façon unique. Il y a une relation personnelle avec nous. Alors, c'est normal que devant une danse, devant une peinture, devant un mime, devant un chant, on ne reçoit pas tous les mêmes choses. Et il ne faut pas oublier que la communication implique deux éléments, l'émetteur et le récepteur. Le message envoyé n'est pas nécessairement le message perçu. Une phrase, une intonation peut avoir différentes interprétations d'une personne à l'autre. C'est la même chose pour l'expression artistique. Quelle qu'en soit la forme, nous la percevons, la recevons ou l'interprétons personnellement. Je vais vous mettre en situation maintenant. J'ai choisi un peu aléatoirement là, différents tableaux comme ça. Ils ne sont pas tous très clairs parce que bon, y a des formats qui sont un peu plus petits. Mais on ne s'attardera pas longtemps, mais je veux juste vous les montrer pour voir en vous qu'est-ce que ça provoque. Juste. Donc, on est toujours dans les toiles figuratives. Une toile de Chagall qui, en passant, a peint beaucoup de choses d'après la Bible. On voit, c'est ça, on voit moyennement bien. C'est ça, il y en a à qui ça plaît. Il y en a qui disent, mais il y en a qui sont comme, ah, c'est beau. Est-ce qu'il y en a qui voient quelque chose là-dedans? Oui? Un homme qui passe, d'accord? Ouais. Un chien, OK. Ah. Moi, je vois un homme qui est un peu comme ça, la tête penchée. Puis c'est peut-être même pas ça du tout. Et je continue. Ici, en passant, on a une toile d'une artiste chrétienne qui s'appelle Constance Simon. Et le titre de son œuvre, c'est « La terre saigne ». Voyez-vous même que juste avec un titre, notre perception change. De la même artiste, l'enfant et l'oiseau. C'est bien, j'entends vos réactions et tout ça. OK, je vais laisser cette toile-là parce que je vais vous donner un autre exemple. Désolée pour le bruit. D'accord. On a parlé de peinture, mais j'ai dit qu'il faut quand même que j'amène une autre forme d'expression artistique. J'ai sorti ma petite flûte à bec. Si je joue quelque chose comme ça, bon, la majorité d'entre vous, vous allez vous entendre pour dire que c'est quand même agréable à l'oreille. Bon. Un autre exemple. Vous Est-ce que c'est différent? Bon. Est-ce que ça... Répondez pas, mais ça vous parle de façon différente, disons. Si cette musique était accompagnée d'une danse, ou plutôt si elle accompagnait une danse, et que cette danse montrait une personne qui est en combat, qui est en lutte intérieure, est-ce que la musique ne prendrait pas une autre valeur ou une autre signification? Voilà. Donc, selon les contextes, en tout cas, il y a beaucoup de facteurs qui font que le langage artistique varie d'une personne à l'autre et d'une circonstance à l'autre. Permettez. Y a-t-il de l'art abstrait dans la création? Hey, super, vous êtes d'accord? Parce que regardez, par exemple, un coucher de soleil où on ne voit plus le soleil, puis vous regardez juste le ciel. C'est un mélange de couleurs extraordinaire. Une chute d'eau, qu'on regarde juste une partie de la chute d'eau, c'est de l'art abstrait aussi. Des rochers, vous savez les rochers qui sont tous en strates comme ça? Ben c'est ça. Dieu en a fait aussi de l'art abstrait. C'est nous qui avons mis des mots dessus. Art et Église. Là, ça va chauffer. Non, mais j'en arrive à un point chaud. Quand on dit ces deux mots-là, art et église, est-ce qu'on peut dire que tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes? Bon. Qui n'a jamais été témoin de discorde dans ce domaine? Qui n'a jamais été témoin? Ben, de discorde, des petites ou des grandes, bon. Ou même, sans avoir été témoin, n'avez-vous jamais entendu des ragots? Dans le dictionnaire, ça veut dire propos malveillants, bavardage, ou de la critique envers un pasteur, ou inversement, envers un artiste. Moi, je vous avoue que j'ai parfois l'impression qu'il y a deux clans dans certaines circonstances. Je pousse peut-être un peu fort, mais car ce n'est pas sûrement... Voyons, qu'est-ce que j'ai écrit là? Oui, c'est ça que je veux dire. Je pousse peut-être un peu fort de dire qu'il y a deux clans, parce que ce n'est pas dans toutes les églises que ça se vit. Mais je pense, j'en ai été témoin quand même ici et là. Puis on ne peut pas le nier. Il arrive qu'il y ait des conflits et de l'incompréhension entre les artistes et les autorités de l'Église. Mais de toute façon, il y a des conflits entre les uns et les autres. Vous êtes d'accord? Le problème, c'est qu'est-ce qu'on fait avec ça? Et encore une fois, je ne généralise pas. Mais je pense qu'à l'heure qu'il est, il est temps d'aborder le problème. Parce que sinon, on risque de manquer le but. Parce que dans nos conflits non résolus, il y a un immense gouffre qui se creuse. Et notre mandat à tous, c'est de faire de toutes les nations des disciples. Et ça, c'est gravement entravé par nos conflits non résolus. Ça n'empêche pas le Seigneur d'agir partout, parce que Dieu est souverain et est au-dessus de tout ça. Mais voilà, là, je suis posée de faire quelque chose de très drôle. Mais ouais, je vais d'abord dire les résultats. Ce que ça cause, c'est que pour les artistes, les résultats de ces conflits non résolus, c'est que ça peut amener l'isolement de l'artiste lui-même en tant qu'individu. Il va faire les choses de son côté ou il arrête de pratiquer son art. Une autre conséquence ou un autre résultat qui peut arriver, c'est qu'il y a un genre de ghettoisation des artistes. Alors ça, c'est une marginalisation en groupe. Le Seigneur peut agir à travers eux quand même, mais je ne pense pas que c'est le plan original de Dieu. Un autre résultat, il peut y avoir de la rébellion qui s'installe, de l'amertume, du non-pardon, des blessures non guéries. Du côté des pasteurs ou des autorités, un des résultats, c'est qu'il se développe une crainte et une méfiance envers les arts. envers les artistes ou envers les arts en général. Il peut aussi, dans certains cas, y avoir du rejet, du jugement facilement. Et encore une fois, de ce côté-là, du non-pardon, des blessures non guéries. Qui a raison, qui a tort? Lorsqu'il y a conflit entre deux personnes, est-ce qu'un seul est fautif? Chacun est responsable pour sa part, qu'elle soit petite ou grande. Bon.
Hey, salut! Je voulais vous parler de mon prochain concert de louanges. Ouais, je vais demander au pasteur parce que je vais faire un spécial de louanges sur le toit de l'église. Ouais, avec plein de flûte à bec. Et je suis certaine que ça va attirer plein de monde. Tout le monde de la ville va venir. Youpi!
Ouais, oh là là, qu'est-ce que je vais faire avec ça? Il y a mon artiste là, le principal, oh là 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 là. Il veut faire un concert de louanges sur le toit de l'église. Oh, et en plus, il veut jouer de la flûte à bec. Moi, le toit de l'église, ça me dérange pas du tout. Mais la flûte à bec, j'aime pas ça.
Moi, je suis une artiste. Une très grande artiste. Je fais de grandes œuvres, très, 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 très grandes, car je vais m'élever jusqu'aux cieux. Vous ne comprendrez peut-être pas mes œuvres, mais vous comprendrez quand vous serez rendu plus haut.
Moi, j'aurais voulu jouer de la flûte à bec au concert de louanges, mais comme le pasteur n'a pas voulu qu'on utilise nos flûtes à bec, j'ai même pas assisté au concert de louanges. Et puis en passant, je crois que je vais changer d'église. Encore une fois. Moi, j'aimerais tant que tout aille bien dans l'église. J'aimerais tant qu'on suive tous le même berger. Moi, mon berger, il est doux et humble de cœur. Au revoir tout le monde.
Ne vous en faites pas, je ne fais que passer.
Il me reste encore un peu de temps. Je ne sais pas si vous pensez que je suis loin du sujet, du langage artistique, parce que, enfin, voilà. Mais moi, je vous dis que non. Parce que le langage artistique chrétien qui atteindra le monde, qui touchera le cœur des gens, doit découler de l'unité et de l'amour que nous avons les uns pour les autres. Nous servons le Dieu de réconciliation qui veut réconcilier le monde avec lui. Si nous ne pouvons même pas nous réconcilier entre nous, le message manque de crédibilité. Les pas qu'il nous reste à faire. Je vais lire quelques versets, ça parle de soi, c'est la parole de Dieu. Romains 12, 18. Romains 12, 18. S'il est possible, autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes. Donc, tout à l'heure, quand je parlais de conflit, qu'il y a toujours une part de responsabilité d'un côté et de l'autre, même si ma part de responsabilité est de 5%, ça m'appartient toujours de faire le pas. Même si l'autre ne le fait pas. Puis qu'il y a 95% de responsabilité. Si on savait tout ce qui pouvait être débloqué juste à cause qu'on reconnaît notre 5%. Éphésiens 4, 1 à 3. Je vous exhorte donc, moi, le prisonnier dans le Seigneur, à marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée. en toute humilité et douceur, avec patience, vous supportant les uns les autres avec charité, vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit, par le lien de la paix. Et un autre verset, peut-être plus particulièrement pour les artistes, dans 1 Thessaloniciens, chapitre 5, verset 13. Ici, Paul s'adresse à tout le monde, mais ça inclut les artistes. Voilà. Il parle des autorités. Donc, il dit « Ayez pour eux beaucoup d'affection. » Donc, « Ayez pour les autorités ou les pasteurs beaucoup d'affection à cause de leur œuvre. Soyez en paix entre vous. » Et avant de lire le prochain verset, j'aimerais dire que pour moi, l'œuvre artistique, l'expression artistique, est comme une offrande. L'artiste met ses talents au service de Dieu pour sa gloire. C'est comme une offrande. Et lisons Matthieu 5, 23-24. Si donc tu présentes ton offrande à l'autel et que là tu te souviennes que ton frère a quelque chose contre toi, laisse là ton offrande devant l'autel et va d'abord te réconcilier avec ton frère, puis viens présenter ton offrande. Ça ne dit pas si tu as quelque chose contre ton frère. C'est que si tu te souviens que ton frère a quelque chose contre toi, va te réconcilier avec lui. Est-ce qu'on ne voit pas là que quoi que ce soit qu'on puisse faire pour Dieu ou quoi que ce soit qu'on veuille lui offrir, que tout ça est tellement moins important que la réconciliation, que le pardon et la paix entre nous? Vous êtes d'accord? Mais quoi de plus? Les artistes ont besoin de l'Église et l'Église a besoin des artistes. pas juste des artistes, là. Des fois, on parle des artistes, les arts, là, là, là. On n'est pas supérieur aux autres. L'Église a besoin de comptables aussi. L'Église a besoin de gens d'affaires. L'Église a besoin de menuisiers. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc, les artistes sont la plupart du temps laissés à eux-mêmes. Les artistes devraient retrouver leur nourriture spirituelle et artistique au sein de l'Église. Les pasteurs veillent à la formation de disciples, à l'édification de l'Église. Alors, pourquoi ça ne serait pas inclus aussi de veiller à ce que les artistes aient une formation encadrée, une formation droite devant Dieu et qu'ils soient... vous comprenez un peu ce que je veux dire? les pasteurs veillent-ils à l'épanouissement et la croissance de leurs artistes? Bon, je me répète, je suis désolée. Mais là, je parle vraiment des artistes consacrés. Parce que c'est sûr qu'on a tous un potentiel de créativité, mais ce n'est pas tous qui sont appelés à vraiment servir Dieu dans un ministère artistique. Il faut que ce soit clair. Parce que, puis gloire à Dieu pour tous vos dons, tous nos talents, tout ça, puis qu'on puisse servir le Seigneur en faisant toutes sortes de choses artistiques. Mais c'est la même chose. Le Seigneur appelle certaines personnes précisément à vraiment consacrer leur vie à leur art. Donc, c'est de ces artistes-là que je parle. Les artistes, quant à eux, doivent veiller à ce que leur art ou leur vision ne prennent pas la première place. Doit surveiller aussi, veiller à ce que son art remplisse toujours le mandat de glorifier Dieu et de le faire connaître, comme on a vu au tout début. En ce monde, les artistes chrétiens devraient être la tête et non la queue en société. C'est nous qui devrions être les leaders. C'est nous qui devrions être les top du top de la créativité puis de l'innovation. Puis, avec foi, je vais dire que ça s'en vient. Mais il faut régler les petites bibittes. C'est ça que je dis, on devrait être la tête et non la queue, puis cela ne peut se faire que dans l'unité. Il ne me reste pas grand-chose à vous dire, mais c'est quand même important parce que il y a un autre pas à faire. Là, je viens de parler un pas de réconciliation, un pas de responsabilité de la part des pasteurs. Il y a un autre pas. C'est un pas vers l'extérieur en tant qu'artiste. C'est que les langages artistiques des non-croyants, qu'est-ce qu'on en fait? Souvent, on met ça de côté, puis on s'en occupe pas. On vit avec nos formes d'expression artistique, puis on en est bien satisfait. En tout cas, pour la plupart. Mais si on admet que les talents artistiques ont leur source de Dieu, c'est-à-dire c'est lui qui a donné la créativité, on peut alors adopter une attitude à la fois ouverte et critique vis-à-vis de la créativité des non-chrétiens. Je vais lire une dernière citation, puis j'ai presque terminé. C'est de Francis Schaeffer, qui a écrit beaucoup d'ouvrages, puis qui s'est beaucoup penché sur le monde artistique et l'Église. C'est un genre d'interview. Quelqu'un lui demande, « Diriez-vous que les chrétiens ont échoué jusqu'à un certain point en n'essayant pas de comprendre la mentalité des gens laïcisés de manière à leur communiquer efficacement l'Évangile? » Il répond, « Absolument. Une chose qui méritait au plus haut point survenait quand je commençais à prêcher sur l'art moderne. Montrant une diapositive d'une peinture moderne, les chrétiens dans l'assistance se mettaient à rigoler. Ça méritait énormément, car les gens qui peignaient ces images étaient dans l'agonie, tandis qu'ils luttaient avec les problèmes de la vie. Ils représentaient cette agonie dans leur travail. Étant donné que la perspective de ces artistes était étrangère à la plupart des chrétiens, église après église, assistance après assistance, ces tableaux faisaient rigoler. Mais les gens auraient dû pleurer plus tôt. Où est notre compassion? Si nous pouvons comprendre et pleurer avec les gens qui peignent de telles images, cela nous aiderait à communiquer l'Évangile aux individus qui partagent cette manière de penser. Nous serions alors capables de présenter clairement la réalité de la déchéance humaine du point de vue de leur propre prophète artistique et répondre avec le message de l'Évangile. J'ai plus rien. Mais mon cœur ce matin, c'était vraiment qu'on se penche sur le langage artistique. Ce n'est pas tellement la forme qui est importante, que ce soit la danse, la musique, le cinéma, la littérature. Mais qu'est-ce que ça me communique à moi? On peut juger le contenu, mais pas nécessairement la forme. Et aussi, je vous invite aussi à avoir l'œil ouvert sur ce que vous allez rencontrer. Puis si vous voyez même une œuvre artistique d'un quelqu'un qui est non-croyant, essayez de voir quelle réponse vous pourriez apporter. Qu'est-ce que ça provoque en vous? Qu'est-ce que vous ressentez? Essayez un petit peu de développer, sûrement qu'il y en a qui le font déjà, mais d'avoir l'œil ouvert, puis de dire, Seigneur, est-ce que j'ai une réponse à apporter avec par rapport à cette œuvre-là ou à cet artiste-là? Seigneur, je te remercie d'avoir été avec nous ce matin. Je veux te louer parce que tu es le Dieu créateur. Tu nous émerveilles par ta création. Tu es venu te révéler à nous par ta parole. Tu nous as offert la rédemption par Christ qui est mort à la croix. Et tu nous as donné ton Esprit Saint qui vit en nous. Seigneur, je te prie pour que il y ait réconciliation en ce qui concerne les arts, les artistes et les autorités de l'Église. Seigneur, je te prie pour que il y a vraiment un tremblement de terre, Seigneur, dans nos là où on est bien campé puis qu'on reste sur nos positions. Je te prie, Seigneur, que tu viennes toucher nos cœurs, qu'on se repente de nos péchés, qu'on se repente de ce qu'on doit se repentir et qu'on travaille pour ta gloire à se réconcilier, Seigneur. Puis je te prie de décupler, Seigneur, notre créativité pour te faire connaître et te donner toute la gloire. Amen.
Merci. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Qu'est-ce qui est merveilleux, c'est de voir une personne touchée par la matière qu'elle livre. Hein? Comme vous voyez, c'est quelque chose dans son cœur. Et pour moi, je trouve ça merveilleux d'avoir des personnes passionnées avec nous. Parce que la passion nous pousse à agir. Et ce matin, si vous avez écouté ce message-là, et si vous êtes artiste, il ne faut pas juste recevoir un message et dire « c'est intéressant », mais il faut prendre un pas par la foi et commencer à faire des choses, n'est-ce pas? Amen. Non, c'est correct. Mais juste pour vous dire, pour ceux aussi par l'Internet aujourd'hui, vous pouvez visiter le site evqmedia.com et puis Martine a une page là, elle va avoir plusieurs projets qu'elle va le proposer et puis on veut vous inviter tous à aller visiter ces choses-là et Martine, dans d'autres semaines, elle va pouvoir nous partager des choses que le Seigneur met sur son cœur. Parce qu'est-ce qu'on veut voir? C'est pas juste parler des arts, mais on veut les vivre, les célébrer parmi nous. Amen. Et ce matin, qu'est-ce que je veux faire en terminant? Je vais inviter l'équipe de la louange à s'avancer, mais on va prier une autre prière. Qu'est-ce que j'ai à cœur de faire, c'est de prier qu'on puisse voir des artistes relâchés dans leur appel aujourd'hui. Je ne sais pas, est-ce que tu voudrais prier encore une fois, Martine?
Oui. Amen. Ben, je ne sais pas, je me sens poussée à que ceux qui veulent se lèvent, mais principalement les artistes. Si vous voulez, ou levez-vous dans votre cœur, là, mais... Seigneur, ces personnes qui se dressent devant toi te servent avec leur art. Je te prie de les bénir et d'élargir leur tente. Au nom de Jésus. Père, je te demande aussi d'attirer à toi les artistes, ceux que tu as appelés à te servir au moyen des arts. Les chrétiens que tu connais, qui sont dans des situations ou des circonstances où ils ne peuvent pas te servir au moyen de leur talent. Je te prie que tu les libères, que tu les attires au bon endroit, Seigneur Dieu, là où ils sont. Ouvre les portes, brise les chaînes, Seigneur. Et je te prie aussi pour les artistes que tu appelles à te connaître, Seigneur. Parce qu'il y a des gens qui ne te connaissent pas encore et que tu appelles à te servir. Comme des Paul, Seigneur, c'est l'image qui me vient. Paul qui lutte, qui martyrisait les chrétiens, puis qui est devenu ton serviteur. Je te prie pour des Paul artistes, Seigneur. Je te prie pour que ces gens-là se tournent vers toi et qu'ils puissent, que leur art puisse être sanctifié. Oui, Seigneur, dans notre Église ici, plus spécifiquement, on te prie, Seigneur, que tu attires à ton service d'autres artistes, Seigneur, pour qu'on puisse continuer de remplir notre mandat puis d'accomplir la vision que tu nous as donnée ici. Merci, Père.
Gloire à Dieu. Amen. On peut acclamer le Seigneur. Amen. Merci, Seigneur Jésus. Gloire à toi. Amen. Merci, Martine, de répondre à l'appel. Amen. Et moi, je m'attends qu'on va voir une récolte d'âmes. Ça, c'est un des moyens de Dieu. Amen.
Merci d'avoir écouté ce message de victoire. Nous prions qu'il a été une bénédiction pour votre vie spirituelle. Pour de plus amples informations sur l'Église de la Victoire du Québec, contactez-nous et visitez le www.evqmedia.com. L'Église de la Victoire du Québec pour l'amour de la francophonie.